Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en Terre de Couleur. Une émission réalisée par Corinelle. En Terre de Couleur vous propose de flâner sur les traces d'un peintre à travers son histoire, son œuvre, ses musées. Je vous souhaite un agréable voyage dans l'univers de la peinture et spécialement pour cette série, au cœur de l'impressionnisme. Une touche de jaune de cadmium, un trait de Carmen Garance, une pointe de bleu de Prusse, un soupçon de blanc de titane, et voilà, la palette est prête. Prenons nos pinceaux, la toile encore vierge, et posons notre chevalet en terre parisienne. Bienvenue chez Oscar-Claude Monet, peintre français, Paris 1840, Giverny 1926. Monet, dont les conditions matérielles se sont améliorées grâce à l'héritage de son père et à la dot de Camille, peint avec plus de régularité, débarrassé pour un temps des soucis financiers. C'est une période féconde où il va réaliser ses toiles les plus impressionnistes.
Soutien grâce aux marchands d'art, n'est-ce pas ?
En effet, rentré à Paris lui aussi après la Commune, Paul Durand-Ruel s'intéresse à Claude Monet et lui achète régulièrement des tableaux. En 1872, il acquiert 29 de ses toiles pour 9800 francs, soit en moyenne 300 francs par œuvre. En outre, Claude en a vendu une à son frère Léon, une autre à Manet et 5 à Louis Latouche, modeste galeriste, soit une somme de 12 100 francs pour l'année écoulée. Durand-Ruel lui en achètera d'autres dont le prix augmentera l'année suivante.
Séjour au Havre.
Durant sa période à Argenteuil, Monet continue ses escapades en Normandie. Lors d'une halte au Havre, il peint une marine en 72 du port, intitulée « Soleil levant sur le Havre ». Il ignore à ce moment-là que son tableau va provoquer un scandale dans le milieu de l'art et devenir ainsi célèbre.
Quel est le climat politique à cette époque ?
Le 24 mai 73, Thiers, président de la République, qui écrasa l'insurrection de la Commune, est renversé par une coalition des partis monarchistes et conservateurs. Mac Mahon lui succède alors. Cette Troisième République n'est pas libérale pour les arts, après la chute de l'Empire en 70, vue comme décadent. C'est une République prudente, désenchantée, qui gouverne, placée sous le signe de l'ordre moral, à laquelle l'Académie des Arts n'échappe pas.
Naissance d'une contestation.
Des artistes viennent peindre Argenteuil, tels Renoir, Sisley, Manet, Caillebotte. Certains se retrouvent au Café Gerbois, avenue de Clichy, avec Degas, Pissarro, Cézanne, Morisot, pour confronter leurs idées. Ils sont soutenus par certains critiques d'art, comme Zola, Duranty, Paul Alexis. Un même sentiment les anime. La non-acceptation de la sanction du jury officiel, qui refuse leur tableau. Ils revendiquent aussi leur liberté de peindre, des thèmes modernes, d'une façon nouvelle, c'est-à-dire saisir l'instant présent, l'atmosphère changeante, et peindre sur le motif dans une palette colorée. Déjà, en 67, un noyau de peintres, Monet, Basile, Renoir, Pissarro, Sisley, Cézanne, Degas, avait pensé exposer en marge de l'exposition universelle et du salon officiel. Malheureusement, le projet fut abandonné, en raison de difficultés matérielles. En cette année 73, Claude Monet, déjà refusé au salon de 69 et 70, remet au goût du jour cette idée. Dans une lettre à Pissarro, il écrit
« Tout le monde trouve cela bien. Il n'y a que Manet contre. »
Il s'occupe des statuts de la Société anonyme, coopérative des artistes peintres, sculpteurs, graveurs, mise en place en janvier 1974. Elle sera chargée d'organiser les 8 expositions impressionnistes à venir.
Première exposition.
Deux semaines avant le salon officiel, le 15 avril 1974, s'ouvre chez Félix Tournachon d'Inadar, photographe au 35 boulevard des Capucines, la première exposition du groupe. Édouard Manet refuse d'y participer, vu un certain succès au salon officiel. Elle va durer un mois jusqu'au 15 mai, comprend 165 numéros, 7 esquisses au pastel et les tableaux suivants de Claude Monet. Les coquelicots à Argenteuil, une marine du Havre, le déjeuner avec Camille et Jean, le boulevard des Capucines et Impression soleil levant. Ce titre fut donné par Monet suite à la plainte du frère de Renoir, qui s'occupait du catalogue, sur la monotonie des titres de ses œuvres. Claude déclara par la suite
« J'avais envoyé une chose faite au Havre de ma fenêtre, du soleil dans la buée et au premier plan quelques mâts de navire pointant. On me demande le titre pour le catalogue, ça ne pouvait vraiment pas passer pour une vue du Havre. Je répondis « Mettez impression ». On en fit impressionnisme et les plaisanteries s'épanouirent.
L'exposition est un désastre. Boudé par le public, seulement 175 visiteurs le premier jour, contre 8 à 10 000 pour le salon officiel. elle est mal accueillie par les critiques qui se déchaînent. Le journaliste Louis Leroy n'est pas tendre. Il écrit dans le Charivari du 25 avril 1974.
Que représente cette toile ? Voyez au livret, impression, soleil levant. Impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans. Et quelle liberté, quelle aisance dans la facture ! Le papier peint à l'état embryonnaire est encore plus fort que cette marine-là.
Ce tableau représente seulement une vue du port du Havre à l'aube. La lumière orangée du soleil apporte une note chaude dans une atmosphère grise où seules apparaissent quelques cheminées et mâts de bateaux noyés dans la brume, suggérés par des traits verticaux. C'est cette toile qui scandalise les critiques, les journalistes, et va donner à l'impressionnisme son nom. Mais bientôt, le substantif donné au groupe est accepté et repris par d'autres commentateurs.
Si l'on voulait en un mot caractériser leurs intentions, il faudrait créer la notion nouvelle d'impressionniste. Ils sont impressionnistes en cela qu'ils ne reproduisent pas un paysage, mais l'impression qui s'en dégage.
Jules Castagnari, autre critique, écrit dans le siècle du 29 avril.
Ainsi, ce qui les sépare essentiellement de leurs prédécesseurs, c'est une question de plus ou de moins dans le fini. L'objet de l'art ne change pas, le moyen de traduction seul est modifié, d'autres diraient altéré. Telle est en soi la tentative, toute la tentative des impressionnistes.
Impression Soleil Levant est acheté en mai pour 800 francs par un collectionneur, Ernest Ochédé. Ce tableau à l'huile, de 48 sur 63 cm, se trouve au musée Marmottan à Paris. Cette première exposition est un véritable échec et la société anonyme est dissoute à la fin de l'année.
Voyage en terre de couleurs.
Manet rejoint Monet à Argenteuil, de même que Renoir. Édouard Manet en profite pour représenter son ami dans les scènes de la vie quotidienne. La famille Monet au jardin, Metropolitan Museum of Art de New York. Renoir immortalise la même scène avec Camille et Jean seulement, dans Madame Monet et son fils dans leur jardin à Argenteuil, National Gallery of Art, Washington. Renoir a déjà peint des portraits des époux en 72. Portrait de Madame Claude Monet. Claude Monet lisant, Musée Marmottan à Paris.
Un avenir plutôt sombre.
Monet voit son chiffre d'affaires diminuer de plus de la moitié par rapport à 73. En cours d'année, face à de nouvelles difficultés financières, il déménage pour un pavillon plus petit. Durand-Ruelle doit restreindre ses achats car les tableaux ne se vendent pas facilement. L'année 75 s'annonce bien mal. Une vente aux enchères est organisée par Paul Durand-Ruelle à l'hôtel Drouot le 24 mars. 20 toiles de Claude Monet y sont présentées sur toutes les œuvres impressionnistes, avec des Sisley, Renoir, Berthe Morisot. Des collectionneurs se sont déplacés, comme Georges de Béliot, médecin roumain, Georges Charpentier, éditeur, Victor Choquet, fonctionnaire, et Jean-Baptiste Faure, artiste lyrique, qui détiendra plus de 60 Monet.
Nouvelle déception.
Non seulement l'exposition suscite beaucoup de mépris de la part du public et des critiques, mais les toiles de Monet sont vendues à très bas prix, de même que celles de ses amis. Claude écrit à Manet, qui l'aide financièrement parfois.
« Quoique j'ai foi dans l'avenir, le présent est bien pénible. »
Les soucis d'argent l'incitent à demander du soutien auprès de ses amis. Georges de Béliot soignera la famille Monet des Argentés en échange de tableaux à moins de 500 francs. Il sera le second acquéreur d'Impression Soleil Levant.
Voyage en terre de couleurs.
Claude Monet ne peint non seulement des paysages, l'eau, les fleurs, des figures, mais aussi les moyens de transport, tels que ponts, gares, péniches. C'est ainsi qu'il nous transmet une toile en 1975, les charbonniers, dit aussi les déchargeurs de charbon, au musée d'Orsay, représentant la dure et triste réalité de la condition ouvrière au travail. Des silhouettes déchargent du charbon des péniches amarrées sous un pont. Dans une atmosphère grise, sombre, nous pouvons ressentir l'effort, la fatigue, la pénibilité du labeur qu'endurent ces hommes. C'est un tableau qui diffère de l'œuvre habituelle de Monet. Il a été acquis lors de la vente du 24 mars 1975 par un monsieur Hecht.
La seconde exposition.
Lors de cette manifestation en avril 1976, chez Paul Durand-Ruelle au 11 rue Le Pelletier, Monet y expose 18 tableaux. Le collectionneur, mécène des impressionnistes et peintre Gustave Caillebotte y est présent. Le déjeuner de Monet y est exposé sous le titre « Panneau décoratif » ainsi que la japonaise. Une fois de plus, les journalistes se déchaînent. Albert Wolff, critique du Figaro, sarcastique, écrit
« La rue du Pelletier a du malheur. Après l'incendie de l'Opéra, voici un nouveau désastre qui s'abat sur le quartier. On vient d'ouvrir, chez Durand-Ruel, une exposition qu'on dit être de peinture. 5 ou 6 aliénés, dont une femme, un groupe de malheureux atteints de folie de l'ambition, s'y sont donné rendez-vous pour exposer leurs œuvres. Ils prennent des toiles, de la couleur et des brosses, jettent au hasard quelques tons et signent le tout. »
Décidément, il ne fait pas bon de s'éloigner de la peinture académique. L'exposition est encore une catastrophe et les prix sont en chute. Heureusement, quelques collectionneurs avant-gardistes dépassent ces jugements. Et certains critiques accueillent favorablement cette nouvelle peinture, tels Castagnari ou Zola déclarant
« Claude Monet est sans doute le chef du groupe. Son pinceau se distingue par un éclat extraordinaire. »
Rencontre fatale, les Ochédé.
Ernest Ochédé est de ceux qui ont commencé assez tôt une collection d'œuvres impressionnistes. D'origine belge, il est issu d'une famille bourgeoise, ayant fait fortune dans le tissu luxueux, la dentelle et le cachemire. Il épouse, le 16 avril 1963, Alice Ringot, belge aussi, héritière du château de Rotembourg à Montgeron, au sud-est de Paris. Ils auront 6 enfants, en principe. Certaines rumeurs attribuent la paternité de Jean-Pierre Ochédé, né en août 1977, non pas à Ernest, mais à Claude Monet. Le mystère reste entier. Ayant très peu le sens des affaires, Ernest quitte l'entreprise familiale en 1975 à la faillite. Il en crée une nouvelle un an plus tard et vend aux enchères par la suite ses tableaux, dont Impression Soleil Levant. Achetée 800 francs, la toile sera vendue pour un quart de son prix en 1978 au docteur de Béliot.
Monet devient donc un intime.
En cette année 1976, Monet fait la connaissance d'Ernest Ochédé. Ce dernier lui commande des panneaux décoratifs pour le salon de son château. L'artiste y peint l'étang à Montgeron, coin de jardin à Montgeron, dit les rosiers, la chasse entre autres, puis les dindons au musée d'Orsay. Un atelier a été mis à sa disposition dans un pavillon du parc de l'été à l'automne 1976. Après ses déboires financiers, Ochédé réussit à redresser sa société pour quelques mois seulement. Il continue à acheter des œuvres qu'il ne peut payer. Puis, ce sera la faillite, avec la saisie du mobilier de l'appartement boulevard Haussmann, été 77, à l'insu d'Alice, enceinte. Ochédé s'enfuit en Belgique, sans retour pour Paris. Il est sauvé du suicide par un ami. Le 20 août, les créanciers se précipitent au château pour tout saisir. Alice part en train le 21 août, se réfugier chez sa sœur avec ses 5 enfants et accouche dans un wagon. La vente du château aura lieu au printemps 78. La collection de 117 tableaux sera dispersée. Elle comprenait 5 Manet, 2 Morisot, 9 Pissarro, 3 Renoir, 13 Sisley et 16 Monet. Laissons donc Monet au château de Montgeron, puis dirigeons-nous vers le musée d'Orsay à Paris.
Du côté du musée.
Jusqu'en 75, Monet emploiera 2 domestiques et un jardinier. Cette vie bourgeoise se retrouve dans ses tableaux de l'époque, le déjeuner, de 73. Toile colorée nous montre une table dressée d'une nappe blanche sur laquelle repose une cafetière en argent, des tasses de porcelaine, un compotier rempli de fruits, des verres de vin et du pain, le tout dans un jardin ensoleillé, fleuri, où se trouvent Camille et Jean. Le chapeau accroché à une branche, l'ombrelle oubliée sur le banc, la profusion de fleurs dénote une certaine aisance. Cette œuvre fut acquise par Caillebotte. Avec un coin d'appartement, datant de 75, nous apercevons cette fois l'intérieur de la maison, où Jean, en costume marin, se tient dans la pièce au parquet ciré et au lustre massif. Conseillé de faire un pendant du tableau « La femme à la robe verte », Monet va exécuter la japonaise, Camille, coiffée d'une perruque blonde, drapée d'une lourde robe rouge brodée d'or et d'un motif guerrier, pose debout, le visage à demi tourné vers le spectateur, un éventail tricolore à la main. Exposée en avril 76, la toile est achetée 2020 francs pour une mise à prix de 200 francs. Cette œuvre suscite des réactions mitigées. Certains la trouvent de mauvais goût. Monet, 40 ans plus tard, la qualifiera de « saleté ». Elle vaudra quand même 150 000 francs à son acheteur. Notre voyage se termine donc sur la période d'Argenteuil. Je vous invite à le poursuivre très prochainement à Vétheuil, sur cette même antenne. Voyage en terre de couleur, un programme Maurice Clément Fèvre, technique, participation, Pascal Laurière.